Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler d'IndyCar et de NASCAR cette semaine, puisque oui, incroyable, après 258 jours d'absence, il y a eu de l'IndyCar.
Et ce n'est pas une info qui sert à rien.
non, pas toujours. Pas toujours, mais on a bien eu de l'IndyCar. Même si c'est la course qui a servi à rien, on va y revenir, mais... Et voilà, alors pour parler de tout ça, vous avez reconnu les deux zouaves qui vont m'accompagner. D'un côté, il y a Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
Et de l'autre, c'est Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Alors, au programme, on va parler bien évidemment de la course du Texas en IndyCar et de la très longue pause qui s'en suivra pour la suite du calendrier puisqu'Indianapolis n'est que dans un mois. Et ensuite, on basculera sur la NASCAR avec Atlanta et Martinsville qui arrivent très très vite en ce milieu de semaine. L'IndyCar, Lilian, c'était du côté du Texas, un superbe ovale d'un mile et demi, sur lequel il n'y avait qu'une seule trajectoire.
Bah oui, merci, merci les restes de PG1 de la NASCAR.
Exactement.
On a eu les chiffres, hein, tous les deux, pendant sur la télévision américaine. Les ingénieurs des différents pilotes ont estimé que la trajectoire où le PG1 était déposé réduisait l'adhérence de 50%.
Mais le PG1 n'est pas censé augmenter l'adhérence à la base ?
Bah écoute, pour les stock cars, oui.
Commentaire.
Pour les stock cars, oui. Pour l'IndyCar, apparemment, ouais, je sais pas. Ouais, chez Firestone, non, c'est pas du tout. C'était pas du tout la trajectoire qui était préconisée.
Vous pouvez demander à Félix Rosenquist ce qu'il en pense ?
C'est vrai.
Oui, mais ça, il faut d'abord qu'il aille demander à Hinchcliffe. Hein.
C'est pas totalement faux. Alors, donc du coup, une seule trajectoire possible sur un ovale d'un mile et demi, ce qui ressemble quand même à une grosse aberration.
Et un seul pilote.
Ça a quand même été une sinécure, cette course. On se faisait, malgré tout, une joie, bon, sauf Aloïs, mais de revoir l'IndyCar après... Après 9 mois d'absence, quand même, parce que...
C'est la première de l'aéroscreen, quand même, à signaler.
C'est la première de l'aéroscreen qui est plutôt... Enfin, l'aéroscreen qui est plutôt réussie, qui dénature pas tant que ça les monoplaces et qui leur donne un look assez agressif, assez sympathique.
C'est vrai.
Dans son ensemble. Mais au final, cette course, avec une seule trajectoire, les dépassements étaient hyper compliqués, voire quasi impossibles. Ça s'est joué dans les stands et ça s'est joué avec le trafic pas toujours coopératif. T'as parlé de comment qu'il s'appelle
de James Hinchcliffe.
Il n'était pas le seul. Hein. Il y avait.
Il y a eu un autre cas également.
Il y en a eu deux trois autres. Alexander Rossi qui s'est vengé d'Indianapolis l'année dernière, je crois. Il y avait qui d'autre ? Enfin voilà, il y a eu du monde, il y a eu des pilotes qui n'ont pas forcément joué le jeu quand ils étaient au-delà du tour, et ça a un petit peu, je pense, gâché la fête, notamment de la Ganassi qui se dirigeait vers un doublé sur lequel il y aurait rien eu à redire.
Bah, de toute façon, à part Joseph Newgarden, du fait de sa pole. Qui a mené, je ne sais plus, jusqu'au premier drapeau jaune, c'était au tour 25 ou 30.
Il a mené 41 tours.
Voilà. Donc, et après, on ne l'a plus vu, ou presque. Et c'est à partir de là, a débuté le festival Ganassi, et en particulier Scott Dixon.
Oui, c'est pour donner une idée, Newgarden, il mène les 31 premiers tours. Ensuite, Dixon mène pendant la salve d'arrêt 3 tours. Veach en mène 2. Puis Dixon reprend les commandes pour une quarantaine de tours. Newgarden mène 10 tours. Et ensuite, Dixon mène les 111 derniers tours. 110 derniers tours.
Et la seule menace qu'il aurait pu avoir, tu en as brièvement parlé, c'était son coéquipier, qui en fin de course était revenu très très fort.
Ouais.
Et puis, je viens d'en parler brièvement également, c'est Hinchcliffe. Hinchcliffe qui a un peu fermé la porte, ou qui en tout cas n'a pas facilité le passage de Rosenquist. Rosenquist qui a tenté l'extérieur, qui finit sur la partie sale et qui va taper le muret.
Effectivement. Et comme tu le disais aussi, à part Dixon et Newgarden et Rosenquist, on n'a vu personne dans cette course. Quand on regarde la tête du top 10, je me faisais la réflexion en fin de course, Tony Kanaan qui fait 10e pour le début de sa tournée d'adieu. J'ai fait, ouais, il est anonyme. Mais en fait, le 9e, on ne l'a pas vu. Le 8e, on ne l'a pas vu. Le 7e, on ne l'a pas vu. Le 6e, on ne l'a pas vu. Le 5e, mais... non plus, quoi.
Mais non, mais tu peux même remonter plus haut. Pagenaud sauve une 2e place. On ne l'a pas vu de la course.
On l'a pas... Ouais, Pagenaud, on ne l'a pas vu non plus, oui.
C'est quand même Monsieur Oval depuis quelque temps.
Eh, hey, mais il l'a dit, hein, il avait
Power,
une...
on ne l'a pas vu non plus.
Qui ça?
Will Power.
Non, Will Power, non, on ne l'a pas vu, non.
C'est pas le seul, mais bon, là, on parle de la Penske en particulier, parce qu'ils sont forcément toujours très attendus sur Oval. Mais là, bon, voilà. Ça a été course à oublier pour la Penske, clairement.
Il y en a un qu'on n'a pas vu non plus, c'est Takuma Sato. Mais parce que lui, il n'était pas au départ de la course. La monoplace, ils l'ont cassé pendant les essais ou les qualifs. Enfin, il l'a cassé pendant les essais ou les qualifs, j'ai un doute. Et pas eu le temps de réparer suffisamment rapidement la monoplace pour pouvoir prendre le départ de la course. Du coup, bah, Takuma Sato, il fait 24e et bon dernier de cette épreuve du Texas. Il marque quand même 6 points.
Alors que j'allais te demander, ouais, est-ce qu'il est quand même classé, même sans avoir pris le départ,
hein? Ouais, il est classé non partant, 24e.
Ok.
Donc c'est un peu le jeu. On a 5 abandons sur cette course, dont 2 rookies. L'accident entre Alex Palou et Rinus Vicket, au tour 164, qui leur a fait mal. Enfin, surtout... C'est quoi, c'est Palou qui part à la faute et Vicky qui peut pas l'éviter ou l'inverse?
Ouais, parce que le spotter peut-être pas assez réactif, parce que ça paraît, je dis bien, ça paraît, oui, évitable sur les images.
De ton siège devant ta télé, ça paraît largement évitable.
Voilà, mais... c'est pour ça que je dis bien que ça paraît, oui. Vu la vitesse.
Ouais, effectivement, mais bon. On a Santino Ferrucci aussi qui abandonne et Félix Rosenquist, on en a parlé suite à l'accident. Alors, on va quand même donner le top 10 de cette course, Lilian, puis on reviendra après peut-être sur certains pilotes qui nous ont marqué ou non pendant cette course. En même temps, parce que Scott Dixon, il n'y a pas grand monde qui a marqué. Donc Scott Dixon s'impose avec 4 secondes 4 d'avance sur Simon Pagenaud. Joseph Newgarden est 3e, Zach Veitch 4e, 5e Ed Carpenter, 6e Connor Daly, 7e Colton Herta, 8e Ryan Hunter Ray, 9e et meilleur rookie Oliver Askew, 10e Tony Kanaan.
Donc... Il y a quand même quelques noms un peu surprenants, je trouve, dans ce top 10, tu vois, je ne m'étais même pas penché en détail sur... Oui, il y a des noms.
Oui, il y a des noms... Oliver Askew, le rookie, faire un top 10 pour sa première course sur un ovale, c'est plus qu'encourageant. Bon, Colton Herta, ça paraît assez logique. Connor Daly, c'est pas forcément sur Oval que tu le mettrais dans le top 10 pour l'instant.
Hunter Ray qui revient de très loin après des soucis.
Ah oui, il faut qu'on en parle de ça.
Probablement les mêmes que Rossi, oui, en début de course où ils ont été pénalisés d'entrée de jeu pour parce que comment les mécanos ont dû intervenir sur la voiture.
Ouais, alors ça faut qu'on en parle parce que ça me j'ai quand même fissuré grave devant ma télé en pleine nuit dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. Tiens d'ailleurs, Aloïs, vu qu'on t'a pas encore entendu, je vais t'évoquer l'incident. On est, donc nous, il est 2h du mat, je crois, en France, un truc comme ça. Bon, c'est pas question de l'heure chez nous. L'heure du Start Your Engines a sonné, mais tu as 2 monoplaces de la Andretti.
Oui, c'est ça, c'est Andretti.
Et je crois qu'il y avait Graham Rahal aussi dans le coup, qui ne sont clairement pas prêtes. Il y a des soucis, on est encore en train de travailler sur la monoplace. On retarde l'heure du Start Your Engines et donc du départ. Est-ce que tu trouves ça logique?
C'est logique en considérant qu'on parle de Roger Penske, j'ai envie de te dire. Donc non, s'ils ont un problème, c'est leur problème, c'est pas le problème des autres. Et bien que ce soit une course de reprise et on peut être relativement conciliant, ça reste quand même une compétition. Et si t'es pas arrivé à régler ou à réparer quelques soucis sur tes monoplaces à temps, c'est uniquement ton problème, hein, c'est pas celui des autres. Ah, okay. Par exemple, on pense à Denny Hamlin, à Charlotte, pour faire référence à NASCAR, il y a quelques semaines, en perdant ses ballasts en sortant des stands dans le tour de chauffe, le peloton l'a pas attendu. Hein. Donc,
c'est vrai, et il a pris une pénalité derrière.
Et à contrario, pourquoi alors on n'a pas repoussé le départ de la course pour que Takuma Sato, enfin ses mécaniciens, puissent réparer la monoplace?
Oui, c'est pour ça que je voulais juste votre avis. J'avais l'impression quand même d'être le seul devant ma télé à me dire, mais ils sont cons. Mais en fait, non, ok. Alors, soit on est tous les trois cons, soit...
Après, je pense que c'est surtout le fait que ce soit la course de reprise. Ils ont décidé d'être un petit peu, on va dire gentils vis-à-vis des soucis de remise en route de tous les processus.
Ouais,
ce serait mon explication.
Il y avait quand même eu une séance d'essai et des qualifications avant, quoi, donc... On dirait, c'est comme en NASCAR, tu fais pas d'essai, tu fais pas de qualif, rien. Pourquoi pas, et encore. Mais là, ça m'a paru
d'ailleurs,
gros, quoi.
D'ailleurs, pourquoi on fait des essais en IndyCar?
Les monoplaces sont peut-être un peu plus complexes à régler. Et puis, ça marquait, comme le disait Lilian, les débuts de l'aéroscreen. Il y avait peut-être une forme d'adaptation à trouver pour tout le monde, au moins en peloton, puisque l'aéroscreen n'avait pas de mémoire... Était testé en peloton à si grande échelle.
Okay. Bah, moi, ce que je m'étais fait comme réflexion, c'est peut-être aussi qu'il y a eu des essais des qualifs, parce que tout simplement, en cas de mauvais réglage et d'accident, le risque de blessure pour un pilote est quand même bien plus élevé en monoplace qu'en stock car.
Oui, aussi.
Pour moi, j'ai surtout pensé à la sécurité.
Oui, je pense qu'il y a aussi un aspect sécuritaire Et l'IndyCar a prouvé qu'il était possible de faire essai, qualif, course dans la même journée. Donc c'est peut-être une piste à évoquer, messieurs. Alors, du coup, l'IndyCar a repris au Texas, là. Je pense qu'on a fait globalement le tour de la course, à moins, Lilian, que tu veuilles ajouter quelque chose rapidement.
Non.
Donc oui, l'IndyCar a repris, mais l'IndyCar repart en pause, puisque la prochaine course, c'est le samedi 4 juillet.
Avec l'épreuve routière d'Indianapolis.
Exactement. Donc on a encore un mois de pause. Donc en fait,
bien 9 mois d'intersaison et puis première course et on attend encore un mois pour la seconde.
C'est ça. Cool. Donc en fait, en 280 jours, il y aura eu une course. Globalement.
Ouais, le calendrier a même rebougé, ouais, parce que moi j'avais Road America le 21 et Richmond le 27.
Ah non, ça a plus lieu d'être depuis...
Ça, c'était il y a déjà trop longtemps.
Oh oui, ça c'était... C'était ça date au moins d'il y a 3 semaines, ces changements.
Oui, ça doit être ça. Et j'avais imprimé celui-là, mais il est déjà bon à remettre à la poubelle.
Ah, celui-ci, tu peux t'en servir en feuille de brouillon. tu peux. Donc voilà. Donc l'IndyCar reviendra au mois de juillet avec Indianapolis. Messieurs, rapidement une petite question. Qui de la NASCAR ou de l'IndyCar a réussi le meilleur retour à la compétition et pourquoi?
Je sais pas si Lilian a un avis sur la question, mais personnellement, la NASCAR a beaucoup mieux réussi sa reprise. Et je pense qu'il n'y a aucun débat.
Ok.
Je rejoins Loïs. Alors pourtant, comme tu l'as dit Geoffroy, je me faisais une joie de revoir les monoplaces d'IndyCar enfin en piste. Qui plus est sur Oval, parce que je pense que je ne suis pas le seul à estimer qu'il n'y a pas assez d'Oval dans le calendrier IndyCar, et pourtant il y a largement ce qu'il faut dans ce beau pays qu'est les États-Unis, que sont les États-Unis. Malheureusement, très peu de spectacles en piste, on en a parlé, une seule trajectoire disponible, on en a également parlé, et puis oui, cette saloperie de PJ One qui déjà nous déplore en NASCAR, vient en plus nous faire chier en IndyCar.
C'est vrai.
Bon voilà, donc c'est vrai, pour tout ça, un petit peu déçu, et en plus, voilà, on a une course d'IndyCar, tu viens de le dire, et on repart pour 4 semaines à se tourner les pouces.
Ouais, mais ça après, c'est un problème de calendrier. C'est
heureusement qu'on a de la NASCAR 2 fois par semaine.
C'est vrai. Mais au risque de vous surprendre, je vais dire que l'IndyCar a été plus forte que la NASCAR, puisque la NASCAR, en gros, la reprise, la NASCAR habite Charlotte, et la reprise, ça a été Darlington, Charlotte... derrière, il y a eu Bristol, Atlanta. On y a toujours été en voiture ou en camion, en gros, pour apporter les voitures. Alors que l'IndyCar a quand même fait Indianapolis, le Texas, un joli petit pont aérien que la NASCAR n'a toujours pas fait. En termes de logistique, c'est quand même une belle réussite, à mon sens.
Ouais, mais au final, on parle de qui le plus, tout du moins.
Ah oui, après, ah oui, ben bah,
le débat il se fait même pas. Et puis, désolé, je vais être un petit peu brut, mais si l'IndyCar veut faire mourir sa discipline, elle a trouvé la solution.
Ah, en prenant Roger Penske comme comme président, je suis pas sûr quand même, mais bon.
En faisant de la merde pour sa reprise et en déjà sacrifier le début de saison. À cause du Covid-19, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais foutre en l'air sa course de reprise pour... désolé, mais le PJ1, ils l'effacent s'ils le veulent. Hein. Et puis, tu laisses un trou d'un mois entre la première et la seconde course. Et puis, tu offres un produit sur la piste qui est... Bah, désolé, mais qui est aussi moche que l'effet du PJ1. Et puis ensuite, tu fais même pas du marketing pour te relancer ta série, tu montres pas plus que ça l'évolution de l'aéroscreen, les pilotes. Je suis désolé, mais moi j'avais à la veille de la course, j'avais aucune idée de qui était.
Ouais, non, mais ça c'est parce que tu lis pas sur US Racing les infos. Mais ça.
Je force le trait, mais je suis désolé.
Les réseaux sociaux, tu devrais avoir toutes les infos.
Oui, non, c'est vrai qu'après la bataille médiatique est clairement remportée haut la main par la NASCAR. Il y a pas de débat de ce côté-là. Mais enfin, je voulais quand même saluer la partie logistique plutôt bien gérée par l'IndyCar. Mais malheureusement, c'est peut-être un peu la seule chose.
Attends qu'il y ait une merde qui ressorte d'ici une à deux semaines. Ça me surprendrait même pas.
Ouais, oui, peut-être, mais bon. On verra. On va essayer quand même de ne pas être trop oiseau de mauvaise augure non plus. Parce que même si on tacle l'IndyCar, on a quand même envie que l'IndyCar perdure. On a quand même envie de voir des courses sur Oval qui soient un peu plus intéressantes que celles qu'on a vues au Texas. Et on a quand même envie de voir une saison 2020, vu que l'objectif c'est de faire une saison 2020. Enfin, qui tiennent la route, qui soient intéressantes, qui soient agréables à regarder pour tout le monde, que ce soit à des heures décentes ou en pleine nuit, comme ça a pu être le cas pour la reprise au Texas.
Après, je rebondis sur ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la non-participation de Takuma Sato suite à sa voiture accidentée. Le jour où c'est une voiture Penske qui est dans ce cas-là, ils font quoi? Ils retardent le départ de la course ou ils partent sans elle?
Non, après, enfin, faut quand même être honnête. Roger Penske est salué par l'ensemble de ses concurrents et rivaux de propriétaires pour dire que c'est la meilleure personne pour pouvoir reprendre les rênes de l'IndyCar et qu'en termes d'équité, il y aura pas de souci. Donc, je pense pas que Roger Penske s'amuse à faire ce genre de choses. Après, voilà, est-ce qu'il aurait fallu attendre Takuma Sato? La monoplace, à l'issue de son accident, paraissait quand même bien en vrac, et le délai de réparation était un petit peu trop long. Alors, c'est dommage pour Takuma Sato.
Ah non, c'est sûr, c'est pas que je disais qu'il devait être là ou pas là, mais voilà, comme on a un propriétaire de la discipline qui est propriétaire d'une des écuries, en l'occurrence,
oui.
La meilleure... voilà, le jour où c'est un des trois pilotes Penske réguliers qui est dans la panade, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller jeter des seaux d'eau sur la piste pour qu'il sorte les sécheuses, je ne sais quoi, si c'est un Oval?
Ouais, non, il a peut-être demandé à mettre du PJ1.
Voilà, c'est petite question en forme de conclusion pour moi.
Ok, très bien. Aloïs, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Lilian?
Bah, je vais juste ajouter qu'au final, on a plus parlé d'IndyCar que le résumé de l'IndyCar sur YouTube.
Oui, bah oui, mais tu t'attendais à quoi d'autre?
Mais c'est souvent le cas.
Il y avait quand même des choses à dire.
Mais ça rejoint le point que j'abordais un peu plus tôt. Mais bon, on peut passer à la NASCAR, je pense qu'on a pas mal de choses à dire également.
Oui, mais avant de passer à la NASCAR, on va faire un petit j'aime pas et une info qui sert à rien, si je ne l'ai pas déjà dite la semaine dernière. Lilian, je t'écoute.
Oh, bah, je vais continuer à attaquer l'IndyCar, hein, malheureusement. L'IndyCar qui se prend pour la NASCAR. Je m'explique. On a eu droit à un drapeau jaune pour cause de débris. Tu me vois venir, Geoffroy. Bah, le débris, on ne l'a jamais vu à l'écran. Et première réflexion qu'on s'est fait, tu m'as envoyé un message tout de suite, c'est l'IndyCar se prend pour la NASCAR. Et c'est vrai. C'est Scott Dixon se baladait, il avait je sais plus, un boulevard d'avance sur le second. Puis ils se sont dit, bon, on va sortir un petit drapeau jaune, tant pis, peu importe la raison, on va trouver quelque chose pour que nous resserrer un petit peu tout ça. Voilà. Drapeau jaune pour débris, et le débris, on le cherche toujours.
Peu importe la raison, pourvu qu'on ait un débris. Et juste, je rebondis là-dessus rapidement, le drapeau jaune a fait 9 tours.
En plus.
L'accident entre Rinus Vicky et Alex Palou, 8 tours. Et l'accident de Félix Rosenquist, 6 tours. Donc
Ouais, mais ça,
le
c'est tant
débris devait être
de.
immense, hein.
Ça, c'est. Comment? C'est temps de passer les pages de pub, que tout le monde rentre au stand.
Voilà, ok. Et ton gène, du coup?
Oh non, 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 y a un petit peu de gemme dans tout ça.
Ah.
C'est un week-end que j'ai passé dans un pays étranger, ça s'appelle la Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, c'est le
Il y
pays
a l'Alsace et il y a la Bretagne.
des... Ah ben, l'Alsace, c'est très bien.
Mais en tout cas, voilà, week-end bien sympathique.
T'avais pris ton passeport?
Bah, bien sûr.
Non, je crois que ça s'appelle la bière, le passeport là-bas.
Non, c'est le cidre.
Ah, oh oui, oula, le cidre.
Ouais,
Parlons pas des choses qui fâchent.
c'est le même degré d'alcool, quoi. C'est de l'eau.
Le cidre et le Queen
Ah oui, c'est vrai, t'avais maigri pendant le confinement, fallait que tu reprennes.
C'est l'idée.
Aloïs.
Bah moi j'ai deux j'aime pas cette semaine, mais il y a un j'aime pas, enfin deux j'aime, je veux dire n'importe quoi. Et il y a un j'aime qui est un peu plus caustique que l'autre, et c'est dans la même veine que ce que je disais en conclusion d'IndyCar, c'est que j'aime beaucoup le résumé de l'IndyCar sur YouTube qui passe du tour 91 au tour 189. 100 tours qui disparaissent, il s'est rien passé pendant 100 tours en fait.
Bah ouais.
Ah, c'est Dixon
Voilà.
devant et Dixon devant.
Donc ça m'a fait marrer, honnêtement.
Ok, et le second j'aime du coup.
Le second j'aime, hormis l'hélicoptère qui passe au-dessus de chez moi, je pense que
Tout
vous
à
m'en
l'heure, c'était
trouvez.
l'ambulance.
Ouais, c'est ça d'habiter en centre-ville. Mais sinon, mon j'aime, c'est le discours que Bubba Wallace a ouvert avec grand succès en NASCAR sur les tensions raciales à l'heure actuelle aux États-Unis. Et j'apprécie beaucoup le fait qu'il ait mis un t-shirt Black Lives Matter. Et au début de la course d'Atlanta, et qu'au final tout le monde en NASCAR a repris un discours assez ouvert, et j'étais agréablement surpris. Et c'est pas quelque chose qu'on était habitué, donc je pense que là encore, la NASCAR a réussi son incursion médiatique sur un terrain un petit peu miné pour elle.
Ouais, enfin, en fin de course, c'est plus
Était-ce le
le.
terrain pour parler de ça?
C'est ça. En fin de course, c'est plus le t-shirt, je ne peux pas respirer qu'il aurait dû aborder. Mais bon, c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Je commence avec mon j'aime pas, et ça fait un petit peu écho à ce que tu disais, Aloïs. C'est que la politique, à mon sens, n'a pas à s'inviter dans le sport. Alors oui, je suis d'accord, ça fait des décennies, pour pas dire des siècles,
Je suis pas d'accord avec toi.
que le sport est une tribune politique, mais pour moi le sport devrait être une très belle tribune apolitique. Mais bon, c'est après voilà, chacun ses goûts, chacun ses idées. Mais pour moi, le sport n'en serait que grandi sans intervention de la politique à tous les coins de rue. Voilà. Et mon j'aime, c'était la reprise du bad en début de semaine. Ça a fait du bien, sauf à la cheville, mais ça, c'est un autre débat.
J'allais y venir, voilà, je suis.
Oh, bah, j'ai
Ah,
un
t'es
œuf
pas
de
un peu
pigeon
trop
d'un côté.
positif, hein.
C'est pas grave, je crois que je vais continuer le vélo en fait.
Sans te faire shooter par les autres.
Ah non, c'est bon, j'ai trouvé les coins où il n'y avait pas de voiture, enfin, où moins de voitures. L'info qui sert à rien, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé la semaine dernière, je ne crois pas, mais les compagnies de location de l'aéroport d'Atlanta qui utilisent les parkings d'Atlanta pour stocker leurs voitures. C'est beau.
L'Atlanta Motor Speedway, tu veux
Ouais,
dire?
de l'Atlanta Motor Speedway, pardon, oui. Donc, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de monde qui prend l'avion, donc il n'y a pas assez de voitures qui sont louées. Donc du coup, faut bien les stocker. Donc ils ont utilisé certains des parkings de l'Atlanta Motor Speedway.
Vous aurez pu les mettre dans les tribunes, on n'aurait pas vu la différence.
C'est pas faux. C'est pas faux.
Boogity, boogity, boogity! Let's go racing, boys!
Let's go racing, boys!
Allez, la NASCAR, ça y est, on peut en parler. C'était du côté d'Atlanta cette semaine, Lilian, enfin cette semaine,
ouais.
Le week-end.
Oui, j'ai compris.
Une course magnifique sans PJ1 sur un ovale d'un mile et demi, ça fait du bien.
Ah, enfin un vrai un mile et demi. Et quel un mile et demi.
Ouais.
On a quand même vu tout au long de la course les pilotes se battre pour maintenir leur voiture. C'était quand même un truc de fou.
Mm.
À part Harvick, qui on avait un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez du plan où on voyait Blaney et Harvick, la différence dans les virages où vraiment Harvick, on l'aurait cru sur des rails, et on voyait vraiment que Blaney travaillait pour maintenir sa voiture. La différence était assez flagrante.
Je pensais qu'il travaillait pour faire des travers, Blaney.
Peut-être.
Mais ouais, Kevin Harvick au-dessus du lot, Aloïs.
Mais je voulais rebondir sur le fait que vous trouviez que c'était une magnifique course. Oui, c'était une belle course, mais je pense pas que c'était la plus belle course qu'on ait eue à Atlanta depuis quelques années. J'étais quand même un petit peu déçu du produit qu'on a eu de la course. J'adore cet ovale. J'adore le fait que le béton, enfin le
l'asphalte.
Comment ils appellent ça ? L'asphalte, voilà. L'asphalte soit gondolé dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de trajectoire unique, etc. Mais je trouve pas que le produit général ait été incroyable. C'est mon avis, mais j'étais un petit peu déçu sur ça. Ceci dit, le vainqueur est fort méritant. Le petit signe de mémoire à Dale Earnhardt en fin de course et à Alan Kulwicki par la même occasion était sympathique. On apprécie.
Comme toujours sur l'ovale d'Atlanta quand il gagne.
Oui, on perd pas les bonnes habitudes. Mais en tout cas, Harvick, on avait quelques doutes depuis. Enfin, on avait nourri des doutes sur certaines semaines depuis la reprise. Là, il a effacé les doutes comme le PJ1 qui n'y avait pas à Atlanta.
Mm. Non, et puis, quel plaisir de voir des voitures qui peuvent aller lécher le muret, comme on disait il y a quelques années, à l'extérieur, dans les virages.
Oui, alors que
c'est des choses qu'on ne voit plus depuis longtemps.
C'est ça, alors que le PJ1 est censé pouvoir aider de ce côté-là sur les ovales d'un mile et demi, et il n'aide absolument pas. Messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je propose que l'oval d'Atlanta reprenne toutes les courses d'un mile et demi sur lesquelles on est obligé de mettre du PJ1.
Mais honnêtement, si il y a l'Atlanta Motor Speedway qui décide de refaire son asphalte à une année ou à une autre, je prends l'avion et je m'installe sur la piste. Il n'y touche pas, c'est mort.
Tu te souviens, il y a quelques années,
Tony Stewart,
je crois qu'on la ressort en fait après chaque émission où il y a une course sur Atlanta. Tony Stewart avait dit, bon, c'était quand il était pilote, hein, que si le président de l'Atlanta Motor Speedway, Ed Clark, décidait de resurfacer la piste, il allait personnellement lui mettre une balle.
Ah, mais ça avait été évoqué.
Hein.
C'est mort.
Ça avait été évoqué.
Ce qu'ils ont fait à Daytona, déjà.
Oui.
On a vu ce qu'ils ont fait sur d'autres ovales, par exemple. C'est pas un mile et demi, mais Bristol, il était un petit peu dénaturé. On en a parlé il y a quelques temps.
Et Bristol, ils ont changé la configuration aussi.
En plus. Mais c'était lequel aussi l'autre un mile et demi qu'ils ont resurfacé, que c'est de la merde.
Ben, Texas.
Texas, oui.
C'est pour ça qu'ils mettent du PJ1.
Mais ça m'a surtout marqué à Daytona, par exemple, parce que c'était un petit peu la même configuration, une asphalte abrasive, avec des bumps un peu partout dans les virages, comme à Atlanta à l'heure actuelle. C'est comme Fontana, d'ailleurs. Fontana, faut pas qu'il resurface la piste non plus.
Bah en fait, toutes les pistes un peu, entre guillemets, du sud, où il fait très chaud, sur les états un peu chauds, que le soleil arrive à cuire l'asphalte. Enfin, c'était pareil aussi à Phoenix, qui est un ovale d'un mile. Hein, Loïs, toi qui connais bien cet ovale de Phoenix aussi. Globalement, au bout de quelques années, la piste devient hyper abrasive et très intéressante à piloter. On peut, en tirant le trait, dire que c'est un peu le cas d'Homestead, que c'est aussi le cas de Darlington. Donc, voilà quoi.
Donc, c'est des pistes qui sont resurfacées peut-être plus régulièrement, malheureusement, que d'autres.
Oui, malheureusement, des fois, il faut y passer, mais faut pas dénaturer la piste. Et un jour, il faudra aller sur Atlanta et refaire la configuration. Mais je crois que la configuration, la date de 97 ou 98, quand on avait changé la piste, qu'on était passé d'un ovale symétrique comme Homestead à la version actuelle de l'Atlanta Motor Speedway.
J'avais vu un article hier, ouais, c'est à l'issue de la saison 96 qu'ils l'ont resurfacé, Atlanta.
Ah oui, d'accord, ouais, ok.
Et en plus ancien, la plus ancienne, c'est Dover, hein, 95.
Oui, ouais, c'est vrai que depuis, toutes les autres ont été refaites.
Et il y en a une autre, c'est... Merde, je ne sais plus, il faut que je retrouve l'article, mais il y en a une autre qui est plus ancienne qu'Atlanta aussi. Il y a Dover et une autre.
De 96, tu dis, Atlanta ?
Alors, Atlanta, c'est à l'issue de la saison 96. On a eu Dover en 95 et il y en a eu une autre aussi.
Ok, bon, écoute, on va rechercher ça. Là, comme ça, le nom ne me vient pas, parce que Michigan, ça a été refait. On va pas s'amuser à faire toutes les pistes. Sonoma, peut-être.
Ah, vas-y, je cherche en...
Ok. Alors, Aloïs, on va quand même s'intéresser un petit peu à cette course. Donc, Kevin Harvick, dominateur en début de course, puis en fin de course. Mais le fait marquant quand même de cette course, à mon sens, c'est Martin Truex Jr. qui gagne les deux premiers segments et une Gibbs qui est clairement de retour aux affaires avec Kyle Busch deuxième, Truex troisième, Hamlin cinquième sous le drapeau à damier.
Et surtout, Martin Truex Jr. remporte ses deux premiers segments de la saison.
Et signe son, pas gagné et signe son premier top 5. Ouais.
Donc... ça commençait à faire un petit bout de temps, on avait nourri quelques doutes, il s'était empressé de les effacer, et Martin Truex Jr. Revient aux affaires. Kyle Busch a été, je pense, il a plus été second qu'à n'importe quelle autre place de la course. Je peux me tromper, mais j'ai très souvent vu Kyle Busch en seconde place.
Derrière Truex, ouais.
Termine. Mm. Et avec Denny Hamlin, qui était un peu plus loin dans la hiérarchie, mais qui finit dans le top 5 en finale. On a vu aussi Christopher Bell qui a fait une petite incursion dans le top 10 à un moment de la course.
Ouais.
Donc non, c'était une journée complète pour les Toyota. Et je pense qu'on pouvait mettre Toyota et la Stewartas Racing dans le même panier. Parce que c'était très fort.
Ouais. La seule ombre au tableau, c'est Eric Jones qui a des soucis en fin de course avec un pneumatique qui part en lambeau et un...
Comment ? Il fait également aussi une bonne partie de la course dans le top 10 ou au pire top 15.
Oui, d'ailleurs en parlant de pneumatiques qui partent en lambeau, ça aurait pu être mon gemme. L'animation de la Fox en 3D pour expliquer que les pneus sur Atlanta Motor Speedway, c'est comme du gruyère sur une râpe, quoi.
Oui.
J'ai trouvé ça, mais énorme, excellent.
Gros moyen. Hein.
Ah, tu sens qu'ils ont mis les moyens, quoi. Tu sens que les mecs Photoshop, ils maîtrisent. Hein.
Mais en tout cas, on parle de la Gibbs, on parle de la Stewartas, mais la Penske n'était pas en reste non plus. Hein.
La Penske n'était pas en reste. La Penske est quatrième avec Ryan Blaney. Les deux autres pilotes sont dans le top 10, 9e et 10e, Brad Keselowski et Joey Logano. On a été plutôt bon, même si peut-être un peu plus discret du côté de Keselowski et Logano.
On est d'accord, c'était surtout Ryan Blaney qui menait les débats pour l'écurie Ford.
Oui, et du côté de la Hendrick, puisque en fait c'est un petit peu nos quatre grandes écuries de la NASCAR, bah, y en a encore un qui a eu son chemin de croix, c'est William Byron, qui va taper le mur dès le départ et qui en fait se met juste une grosse balle dans le pied et ne peut rien espérer d'autre que pas grand-chose de bien à l'arrivée. Et les trois autres, bah, on les a jamais sentis capables d'aller faire autre chose qu'au mieux un top 10.
Ouais, Chase Elliott a un petit peu titillé en début de course parce qu'il partait avec la pole.
Oui.
Mais Jimmy Johnson, c'était relativement discret. Et encore plus pour Alex Bowman.
Effectivement. Alors, le top 10, Kevin Harvick, Kyle Busch, Martin Truex Jr., Ryan Blaney en a parlé, Denny Hamlin aussi. Sixième, Kurt Busch.
Il revient de loin.
Qui revient.
Moi, je veux dire qu'on ne l'a pas vu de la course, mais il termine à la sixième place.
Et qui est quand même régulièrement devant Matt Kenseth, qui, je ne vais pas dire qu'il plafonne, mais dont les performances sont peut-être un tout petit peu en deçà de ce qui pouvait être espéré.
Tu parles pour Matt Kenseth ?
Pour Matt Kenseth, oui.
En même temps, il ressort de retraite,
oui.
Il a une voiture nouvelle, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis son départ, donc en même temps, il ne fallait pas attendre des 100 et des 1000 non plus de Matt Kenseth. Après, ça, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, pour être honnête.
Il s'en sort bien, mais Bon, enfin, c'est un peu en dessous des standards de Matt Kenseth. Après, comme tu le dis,
en même temps, ça fait 2 ans qu'il court plus.
Une nouvelle voiture, il sort de retraite, nouvelle équipe. Oui, il y a pas mal de petites choses qui jouaient contre lui dès le départ. Mais voilà, il fait 15e, hein, c'est pas non plus scandaleux. Il y a beaucoup de monde qui voudrait faire 15e de cette course d'Atlanta. Donc ça reste correct.
C'est surtout avec le top 10 à Darlington pour sa reprise. On espérait beaucoup de choses, mais 16e à Bristol, 15e à Atlanta, c'est plus qu'honnête. Et surtout, il était qu'à un seul tour du leader à Atlanta, et il était dans le tour du leader à Bristol. Donc je pense que même s'il a connu quelques soucis, ça reste des résultats qu'on pouvait attendre à minima pour lui.
Ouais, effectivement.
Mais pour rester sur Kurt Busch, je trouve honnêtement que ses résultats dépassent les attentes, par contre. Parce que hormis une 33e place à Daytona, donc à cause d'un accident, et 25e à Las Vegas, il a connu des petits soucis, si je dis pas de bêtises. C'est uniquement qu'un seul résultat au-delà de la 7e place.
Oui.
Donc il y a 3e à Fontana, 6e à Phoenix, 3e à Darlington et 15 à Darlington. Donc c'est son plus mauvais résultat quasiment depuis la reprise. 7e à Charlotte et 5e ensuite, 7 à Bristol et 6 à Atlanta. Je vois pas ce qu'on peut attendre de plus que lui pour un pilote qui arrive à la Ganassi.
C'est vrai, ouais, donc pour toi c'est plus Kurt Busch qui est au-dessus du potentiel de la Ganassi que Matt Kenseth qui est un tout petit peu en dessous de ses standards.
Ah oui, clairement. Okay. Clairement.
D'accord, non, mais pourquoi pas, ça se tient aussi. Et donc la fin du top 10, on en a déjà parlé, 7e Jimmy Johnson, 8e Chase Elliott, 9e Brad Keselowski, 10e Joey Logano. Une fois n'est pas coutume, Austin Dillon devant Tyler Reddick, 11e Dillon, 16e Reddick qui est meilleur rookie de la course. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ricky Stenhouse Jr., 13e, course intéressante encore une fois.
Mais ce que j'aimerais remarquer, c'est que on tape souvent sur le dos de Dillon et Stenhouse à longueur de semaine, mais depuis le début de la saison, on remarque que les deux larrons réussissent très régulièrement leur sortie sur ovale d'un mile et demi, et tout du moins sur les ovales rapides, telles que Las Vegas, telles que Charlotte, telles que Atlanta.
Pour l'instant, Austin Dillon, il est 14e du général, Ricky Stenhouse Jr., il est 20e.
Donc au final, je trouve que ce résultat des deux pilotes confirme la tendance comme quoi leurs véhicules, enfin leurs Chevrolet surtout, sont rapides sur les ovales d'un mile et demi.
Effectivement. Lilian, tu es toujours avec nous ?
Ouais, je cherche.
Ah d'accord, ok, bah vas-y, continue
je
de chercher.
Je retrouve plus mon article, ça m'énerve.
Quand tu auras trouvé du pétrole, tu nous fais signe.
J'écoute.
Donc au classement général, Kevin Harvick, Louis, est toujours solide leader. 48 points d'avance sur Joey Logano, 3e chez Elliott. En fait, ce qui est intéressant, c'est de noter les 12 premiers. Kevin Harvick, Joey Logano, Chase Elliott, Brad Keselowski, Martin Truex Jr., Denny Hamlin, Ryan Blaney, Alex Bowman, Kyle Busch, Kurt Busch, Arik Almirola et Clint Bowyer. Pourquoi je note les 12 premiers? Puisque les grilles de départ sont établies par tirage au sort, les 12 premiers héritant des 12 premières places. Donc, pour l'instant, pour ces 12-là, on est plutôt bien. Ouais, je vérifie en même temps. Oui, non, c'est bon, c'est bien ces 12 pilotes-là.
Johnson est 13e,
ouais.
À seulement 3 points derrière Clint Bowyer, donc beaucoup de choses peuvent changer.
Effectivement.
Et Austin Dillon, Matt DiBenedetto, donc 14 et 15, ont une dizaine de points de retard.
Mais je vérifie. Parce que c'est sur le classement propriétaire en fait, et la 42 est retombée à la 17e place. Donc c'est bon. Okay. Mais en fait, pourquoi j'évoque ça, c'est la différence entre Clint Bowyer, tu vois, 12e du championnat, et Jimmy Johnson, 13e. Il y a 4 points d'écart entre les deux. 3 points d'écart, pardon.
Et, 3 points, ouais.
Et en fait, et ben, le 12e. Il a la possibilité de partir premier à Martinsville, et le 13e, il a la possibilité de partir 24e. Donc comme quoi, une place de différence peut avoir des conséquences absolument dramatiques sur une grille de départ à Martinsville, où on sait que les remontées sont possibles, sont faisables, mais compliquées. Et ça s'est traduit, puisqu'on a eu le tirage au sort des qualifications ce lundi pour Martinsville. Et je te le donne dans le mille. Ryan Blaney, Harry Almirola, Joey Logano, Clint Boyer 4e, Jimmy Johnson, lui, il est 21e.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein.
C'est le jeu, c'est terrible, comme quoi, ben, pour 3 points, Johnson, il prend 17 places. Et tout Jimmy Johnson qu'il est à Martinsville, bah, sa course, elle n'est pas gâchée, parce que bon, va quand même falloir la disputer, mais ça s'annonce compliqué, il va peut-être falloir user de stratégie pour remonter.
Effectivement. Et encore, il pourra s'appuyer sur un drapeau de compétition, un drapeau jaune de compétition très rapidement dans la course.
Oui, parce que ça, c'est un peu la norme en NASCAR. Quand on n'a pas d'essai, on met un drapeau jaune de compétition histoire de pouvoir régler les voitures et vérifier l'usure des pneumatiques. Bon, pourquoi pas, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas un drapeau jaune qui me choque.
Bon, non, puisque c'est la norme depuis le début de la reprise. Et puis que, au final, c'est normal puisqu'il n'y a pas d'essai ni de qualification. Donc il faut quand même compenser ce manque de, comment dire, pour les réglages et au moins pour éviter, surtout à une piste comme Martinsville, de mettre un nombre incroyable de pilotes au-delà du tour, dès le début de la course.
Oh, même si ça va arriver parce que c'est Martinsville et que la différence entre les premiers et les derniers va se faire rapidement sentir. Alors, tu parlais de Martinsville, Aloïs, je vais te donner les horaires, comme ça tu pourras pas dire que tu ne les as pas. Hein,
Non, ça s'appelle Lilian, hein, c'est pas moi.
Hein. Oui, c'est vrai.
C'est bon, j'ai mes infos, au fait.
Ah, bah vas-y, on t'écoute.
Désolé, j'ai enfin retrouvé l'article. Donc, c'est Dover en 95 et Autoclub 96.
D'accord, ok.
Et après, donc, ouais, c'est ça, ça a été entre 96 et 97 Atlanta. Voilà.
D'accord, merci. Eh ben, au revoir Lilian. Puisqu'on l'a...
La semaine prochaine.
Donc je vais donner les horaires pour Martinsville. T'écoutes quand même avant de partir. Hein, parce que je voudrais quand même pas...
Tu te trompes pas de couleur dans ton article ?
Non, mais je me trompe. Je me trompe jamais de couleur.
Si, t'avais mis du rouge pour dimanche.
Non, c'est pas ça.
500
c'est...
miles en truck, ça me paraît bizarre quand même.
Non, il manquait une balise. C'est tout. Donc, 18h50, on appelle les pilotes à voiture, et 19h, le départ de la course, mercredi, enfin, la course, le drapeau vert, je ne l'ai pas, mais j'ai toujours pas celui d'Atlanta, hein, merci la NASCAR, donc je pense qu'on va pouvoir attendre, je crois que j'ai même pas non plus celui de Bristol, donc avant qu'on ait celui de Martinsville, je pense que... Il sera passé 2-3 semaines et le prochain...
Non, on ne sait jamais. S'il y a un pilote qui a un problème pour lancer sa voiture, il faut lui laisser un peu plus de temps.
Non, mais on s'en fout, Hunter Ray et Rossi ne sont pas là.
Ah,
okay, bon, j'ai pensé alors à une vanne sur la NASCAR aussi par rapport à ça.
Donc ça fait 1h du matin en France jeudi pour la course.
Merci.
Ouais, mais bon, enfin comme dit, hein, course en semaine, pas de public, la NASCAR elle est obligée de vendre. Enfin pour que les gens l'aient, faut être sur les chaînes type Fox Sports One et c'est quand même beaucoup plus simple en semaine d'avoir du monde en prime time aux États-Unis qu'à midi, quoi.
Oui, puis en plus, ceci là, comme dit, c'est le seul sport.
Ceci dit, on a quand même une course nocturne à Martinsville. Oui. Je dis rien.
C'est la première de l'histoire en Cup. Donc,
bon, on peut tirer la gueule, nous, Français, mais au final, on ça, aura quand ça, même une première victoire.
Ça peut être sympa.
On tape, nous, des Français, comme tu dis.
Ça peut être sympa. Les deux premiers segments 130 tours chacun, le dernier segment 240 tours messieurs, 39 engagés, la grille de départ qui est connue, les horaires je viens de vous les donner, ça promet, Martinsville en nocturne, je pense qu'on a tous hâte, on va se donner rendez-vous si la course a eu lieu grâce à la météo, je vous avouerai que j'ai pas regardé encore la météo, mais bon, ça a l'air de se calmer de ce côté-là aux États-Unis. On essaiera de refaire une émission en fin de semaine.
On va essayer de se caler ça.
Comme ça, on parlera de Martinsville et on enchaînera avec Homestead qui va arriver dans le... Comment ? Qui va arriver très très vite ce week-end. Là, pareil, Homestead, c'est full. Il y a, je crois, de mémoire, qu'il y a deux courses d'Xfinity, une course de truck, une course de cup.
C'est bon, ça.
Un café, l'addition. Va falloir être opérationnel tout le week-end. Mais bon, on aime ça.
Pour la météo, je viens de regarder, ils annoncent des orages.
Ah, cool.
Cool. Bah, Louis, c'est poissard aussi.
C'est ça.
Il n'y a plus quoi croiser les doigts.
Oh, à mon avis, l'avantage, c'est que Martinsville, c'est tellement petit, tu pourrais mettre une petite tonnelle au-dessus du circuit et tu pourrais courir.
Et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, effectivement. Messieurs, on s'arrête sur ces bêtises. Je pense qu'on a encore été suffisamment long dans cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à Loïs, merci Lilian. On se retrouve très très vite. Salut tout le monde.
À la prochaine.
Bonne semaine à tous, à plus.